vrai.
Tout de suite, les informations.
Bonsoir à tous. Des actions sur les armes et sur ceux qui portent les coups. François Bayrou s'est exprimé ce soir sur le plateau de TF1 suite au meurtre d'une surveillante dans un collège de Nogent-sur-Marne ce matin. On le rappelle, un adolescent de 14 ans a été placé en garde à vue, soupçonné d'avoir poignardé la victime. Le Premier ministre a notamment annoncé de nouvelles mesures concernant l'achat d'armes blanches sur Internet.
On va élargir la liste des armes. Pour l'instant, il n'y a que les poignards, pour simplifier, qui sont interdits. Et on va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. Sur le contrôle de l'âge, il faudra qu'un adulte signe la réception. Au moment de la livraison du colis, on contrôlera quel est l'âge de celui qui signe la réception du colis. Et vous voyez qu'on a là quelque chose de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus immédiat que la vérification en ligne de l'âge qui est encore pas tout à fait au point.
Des mesures qui entrent en vigueur immédiatement. Un Français parmi les victimes de la fusillade en Autriche, un jeune homme de 21 ans a ouvert le feu dans son ancien lycée ce matin avant de se donner la mort. Le bilan s'élève désormais à 11 victimes dont l'assaillant, une femme a succombé à ses blessures à l'hôpital. 11 autres personnes sont toujours dans un état grave. Réduire la consommation et la production de plastique à l'occasion du sommet mondial sur les océans à Nice, 95 pays signent un appel pour un traité sur le plastique. Annonce de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui précise que la collecte, le tri et le recyclage ne suffisent pas à réduire la pollution. La fast fashion dans le viseur du Parlement. Un an après l'Assemblée, le Sénat a adopté cet après-midi une proposition de loi pour freiner l'essor de la mode ultra-éphémère, incarnée par le géant chinois Shein. Le texte prévoit notamment des pénalités financières et l'interdiction totale de la publicité pour ces plateformes. Et puis c'est officiel, Ryan Cherki a signé à Manchester City. Le footballeur français quitte donc l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Il s'est engagé pour 5 ans avec le club anglais. Coût du transfert, 42,5 millions d'euros. Bonne soirée à tous.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes devenu un maître de la BD en assurant en particulier la relève des maîtres de l'école belge, à commencer par Edgar Pierre Jacobs. Après avoir imprimé votre marque qui n'est pas jaune, vous vous lancez aujourd'hui dans une nouvelle aventure, le thriller. Bonjour Yves Sente.
Bonjour.
Alors, on vous connaît, on connaît votre nom à travers la BD, à travers Black et Mortimer, Torgal et 13 et autres. On ne connaît pas l'homme. Et l'homme, on va le découvrir à l'occasion de la sortie d'un roman, l'expérience Pentagramme au Seuil, chez Collection Verso, qui est un roman tout à fait inattendu, un thriller. Donc on va évoquer ce roman tout à l'heure, après avoir parlé de votre parcours, puisque c'est le principe des clés d'une vie avec des dates clés. D'accord ?
Très bien.
Alors la première date, elle vous correspond, elle ne vous correspond pas exactement, mais en même temps elle est importante, le 5 juin 1930. C'est ce jour-là que dans le petit 20e paraissent les premières planches de la deuxième aventure de Tintin, Tintin au Congo. Et ça vous a marqué ?
Ah, Tintin au Congo, pour moi, c'est un livre fondateur de beaucoup de choses dans ma vie. Donc, en Belgique, il existe la Saint-Nicolas, qui est une fête très importante pour les petits enfants. Le 6 janvier, donc, enfants se lèvent et on ouvre la porte du salon.
Le 6 décembre.
Pardon. Oui. Vous connaissez mieux la Belgique que moi. Le 6 décembre, Saint-Nicolas. Et donc, j'avais 6 ans, je ne lisais pas encore tout seul, parfaitement bien. Je descends et au milieu des cadeaux, il y a cette couverture de cette voiture-là qui avance dans la savane africaine, Tintin au Congo. Je prends l'album en main, tout de suite, je regarde même pas les autres jouets, mes parents me rappellent encore, et je vois ces images, ce petit bonhomme qui bouge, et je comprends naturellement ce qu'il fait, même sans savoir lire les textes. Et voilà, c'est le début d'un amour inconditionnel pour la bande dessinée qui commence ce jour-là.
Voilà. Il se trouve qu'au départ, la série originale, il y avait 110 planches et qu'elle a été revue à 62 planches pour des questions de fabrication parce que les albums contenaient 62 planches ensuite. Et cet album a été très contesté, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ça ne posait aucun problème.
Non, à l'époque, en tout cas, moi, enfant, je ne voyais pas où il pouvait y avoir le mal. Après, on se rend compte, on prend du recul sur certaines choses. Mais à l'époque, non, c'était juste les aventures de Tintin, point.
Voilà, et en même temps, au Congo, on considère cet album comme faisant partie du patrimoine, vous voyez.
Oui.
Alors, vous allez petit à petit lire toutes les aventures de Tintin, souvent en les empruntant à la bibliothèque.
Effectivement, je recevais un album aux grandes occasions, Noël, l'anniversaire, c'était à peu près tout. Le reste du temps, mais toutes les librairies, les ce qu'on appelle librairies des bibliothèques en Belgique, paroissiales ou communales, avaient toujours des piles de BD. Et donc, je recevais quelques francs belges de mes parents tous les week-ends pour aller en louer. C'est là que j'ai commencé à dévorer, dans le désordre d'ailleurs, un certain nombre d'albums de beaucoup de collections.
Voilà. En même temps, il n'y avait pas encore des albums comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de journaux ou d'albums.
Ah, les journaux étaient évidemment en plein dans le ressort, les années encore 60, 70. Mais mes parents ne m'avaient pas abonné à un journal. Donc, soit je lisais le journal Spirou ou Tintin chez un de mes camarades, soit je louer les albums à la bibliothèque.
Alors, parmi vos lectures de jeunesse, Yves Sand, il y avait Johan et Pierre Louit de Peyot. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué.
Ah, Jean et Pierre Peyot est un merveilleux conteur. Pour moi, c'est un, on parle toujours des dessinateurs, Hergé, grand dessinateur. Oui, mais Hergé est aussi un grand scénariste. Peyot, merveilleux dessinateur, bien sûr, mais Peyot est un merveilleux scénariste. Et c'est surtout, on dit souvent en bande dessinée, le dessin séduit, le scénario fidélise. Et effectivement, les grandes séries sont celles qui ont de bons scénarios. Et il y a des auteurs comme ça, magnifiques, comme je disais, Hergé, Peyot ou Cosé plus tard, qui sont à la fois scénaristes et dessinateurs. C'est ce qu'on appelle les auteurs complets en BD. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais j'ai une admiration sans borne pour ces gens-là.
Oui, et Peyot, lui, le miracle, ça a été des schtroumpfs. Lui-même ne croyait pas que ça marcherait comme ça.
Non, non, tout début, les schtroumpfs, c'était des personnages secondaires dans la série Jean et Pierre Louis, dans la flûte à six schtroumpfs.
Exactement.
Puis, les lecteurs du journal en ont réclamé, redemandé, et puis voilà.
Et voici quelques jours, le record du monde du plus grand rassemblement de schtroumpfs a été battu à Landerneau dans le Finistère. Je sais pas si vous savez, ça a réuni 3076 personnes déguisées en schtroumpfs, en schtroumpfettes et en grand schtroumpfs. C'est totalement hallucinant.
J'ai lu ça ce matin dans la presse. Beaucoup ri.
Alors, finalement, c'est une époque où les dessinateurs ne sont pas des stars. Ce sont des gens qui écrivent pour les enfants.
Ce sont des gens qui écrivent pour les enfants. Et puis, en règle générale, en bande dessinée, c'est le héros qui devient la star. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Peyot parce que quand je suis rentré aux éditions du Lombard, les Schtroumpfs venaient d'y arriver en 92. J'ai été plusieurs fois au restaurant avec Peyot, personne ne se retournait autour de nous parce que personne ne le reconnaissait, alors qu'il y a des milliards de gens qui connaissent les Schtroumpfs sur Terre. C'était hallucinant.
En même temps, les auteurs sont des grands enfants comme leurs lecteurs.
Toujours. Les lecteurs, je crois qu'on a été marqués dans l'enfance. Eux-mêmes ont été marqués par Disney, par d'autres auteurs. Et je crois qu'on a été marqué au point de vouloir devenir auteur soi-même, c'est qu'on a décidé de garder, d'exploiter une part d'enfant, oui.
Mais ce qui est étonnant aussi, c'est Hergé qui l'avait dit, il écrivait pour les enfants sans imaginer que les adultes aimeraient ça, qu'il deviendrait des stars. Le jour où il a été le plus surpris, Hergé, c'est quand les trois astronautes de la Lune sont venus lui demander une dédicace.
Ah oui, il y a des moments merveilleux, mais je crois que c'est aussi les enfants qui grandissent, qui vieillissent et qui gardent leurs souvenirs d'enfance. Les lecteurs adultes, ce sont ceux-là en général. C'est rare les gens de plus de 50 ans qui découvrent Tintin.
Et vous avez aussi une autre passion dans l'enfance, Yves Sand, c'est Jules Verne.
Oui, Jules Verne, dans les premiers livres sans images que j'ai lus ou avec quelques illustrations, il y avait bien entendu les romans de Jules Verne qui prêtaient à la rêverie, c'est de l'aventure. On partait dans les airs, sous les mers. Enfin, c'était formidable à l'époque. Je vous rappelle que en Belgique, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de télévision. Qu'à la maison, il n'y avait que la RTBF et la chaîne flamande que je ne parle pas. Donc, ça laissait très peu de choix pour les distractions en dehors de livres.
Et en plus, vous n'êtes pas le seul, puisque l'œuvre de Jules Verne a été traduite plus de 4750 fois, ce qu'il place derrière Agatha Christie et devant Shakespeare.
Ah ben, je ne savais pas.
Et puis, il y a un autre Verne aussi qui est célèbre et qui a été évoqué en chanson. Henri Verne, qui est un pseudonyme d'ailleurs, et Bob Moran avec Indochine. Et c'est vrai que quand Henri Verne, il me l'a dit, le jour où on a fait l'émission pour ses 100 ans, les clés d'une vie, il m'a dit qu'il avait entendu par hasard Indochine à la radio, qu'il n'était pas au courant.
Ah, c'est fort possible, oui. Henri Verne était un personnage, j'ai eu la chance de le croiser aussi, puisque le Lombard l'adaptait en bande dessinée.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un personnage qui m'a aussi fait rêver énormément, Le Chasseur de dinosaures, un des premiers romans que j'ai lu, gamin.
Ce qui est fou, c'est que Henri Verne avait écrit un roman La Vallée Infernale, ne pensait pas qu'il y aurait une suite, il a écrit de son roman.
Oui, 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 tout à fait.
Et ça correspond à un style dont on a besoin, un style de scénario dont on a besoin, Yves Sand.
Je pense que le besoin d'aventure, il ne disparaît sera jamais. Aujourd'hui, il y a plus de tendance vers l'introspection, des scénarios qui parlent de soi ou des problèmes de la vie, du quotidien. C'est très très bien. Mais en même temps, on a tous besoin toujours d'aventures, de rêves, d'espace.
Alors, vous êtes né donc à Bruxelles, Uccle, qui est un quartier assez chic de Bruxelles. C'est le Neuilly de Bruxelles, Uccle.
C'est une ancienne campagne de Bruxelles qui aujourd'hui est devenue très dense, puisque la commune d'Uccle a plus de 80 000 habitants, je pense, aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de verdure, donc c'est très très agréable. On sent un peu la campagne tout en étant dans la ville.
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un pape, Léon III, qui a baptisé l'église Saint-Pierre d'Uccle entre 795 et 816, en présence de Charlemagne. Un pape Léon, vous voyez.
Vous me l'apprenez.
Et puis donc, au départ, votre famille n'a rien à voir avec la BD. Je crois que votre père est fonctionnaire, oui. Votre mère travaille à la maison et vous faites des études normales jusqu'au bac, Yves Sente.
Oui, tout à fait. J'ai fait des études de latin science et puis mes parents, pour eux, le petit dessine, le petit fait du théâtre, le petit va à la chorale, tout ça c'est très bien, mais il faut étudier pour avoir un métier sérieux plus tard.
Et le métier sérieux, c'est avocat au départ.
Au début, c'était avocat, donc j'ai fait ce qu'on appelait candidature, c'est les trois premières années à l'université de droit, ça je les ai achevées. Puis ces trois années m'ont suffi pour savoir que je ne voulais plus être avocat, que ça ne serait pas mon trip à moi. Et donc j'ai bifurqué vers les sciences politiques parce qu'à ce moment-là j'avais un rêve tout à fait utopique aussi. J'avais encore une idée de la carrière diplomatique, de quelque chose de très aventureux ou qui nous permettait de voyager. J'avais lu comme ça que certains diplomates le soir passaient leur temps à écrire des romans ou des choses. Et ça me tentait très fort. Et puis donc j'ai achevé ces études de sciences politiques dans cet objectif-là.
Vous avez aussi passé un moment aux États-Unis.
Ça c'était avant. Donc à la fin du bac, j'ai refait mon bac aux États-Unis.
Pourquoi ?
C'était pour l'expérience, pour apprendre l'anglais, pour vivre autre chose, sortir un petit peu de chez moi. Et mes parents m'ont permis de le faire et ont financé ce voyage. Enfin, j'étais dans une famille et c'est une expérience formidable.
Alors, vous avez obtenu un diplôme et les ennuis ont commencé à ce moment-là parce qu'il faut trouver du travail quand on a un diplôme, Yves Sente.
Voilà. Alors, mes parents m'ont dit, bon, bah maintenant, on t'a financé toutes ces études, là, on t'a bien poussé, tu as fini, c'est très bien. Maintenant, il s'agit de travailler. Et ça mettait déjà du temps. À l'époque, on était tout début des années 90. Et bon, il me fallait un an de plus pour préparer l'entrée au concours diplomatique. Et c'est là où mes parents me disent, une année, tu vas pas rester à la maison et à lire des livres, tu vas travailler. Et je me regarde dans la presse et je vois une annonce miraculeuse pour moi. Les éditions du Lombard engagent rédacteur en chef.
Oui, mais à l'époque, vous aviez un dossier chez vous avec des lettres de candidature de refus.
Ah oui, j'en ai, je l'ai toujours d'ailleurs. J'ai gardé un dossier, j'ai une centaine ou 150 refus de différentes entreprises où j'avais postulé. Ce n'était déjà pas simple à l'époque.
Mais c'est fou, c'est pas démoralisant dans ces cas-là ?
Ben oui, alors pour garder le moral, je m'occupais sur le côté en plus de rechercher cet emploi et c'est comme ça que j'ai commencé ma première bande dessinée au dessin et au scénario. Mais c'était vraiment un hobby à l'époque, mais enfin j'avais été mis en contact par le biais d'un ami, avec Tibet, le dessinateur de Ricochet, dessinateur et scénariste de Chicville. Il habitait près de chez moi, à Uccle, et il m'a reçu de manière très simple, très sympathique, et il m'a bien critiqué d'ailleurs, donné beaucoup de conseils. Et donc, ça m'occupait en même temps que je cherchais mon premier travail.
Et justement, ce premier travail, ben, on va l'évoquer à travers une date qui ne correspond pas à la vôtre, mais qui est importante, qui est le 26 septembre 1946. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Sente.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre particulière du 1er au 30 juin. Condition Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio Alès.
95.
Sud Radio.
On a tous ce copain, cette cousine, ce voisin qu'on admire parce qu'il donne son sang régulièrement. Et si c'était le moment pour vous d'en faire autant ? Oui, si là, tout de suite, vous l'appeliez pour lui proposer d'aller donner votre sang ensemble. En juin, tous unis par le don. Rendez-vous sur le site Don de sang de l'établissement français du sang.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Sente. On connaît votre nom, moins votre parcours, on l'évoque aujourd'hui. Vous êtes le scénariste de séries de BD, à commencer par Black et Mortimer. Vous publiez votre premier roman, un thriller, l'expérience Pentagramme, qu'on va évoquer tout à l'heure. Et puis, la deuxième date que j'ai choisie, c'est le 26 septembre 1946. Elle est liée à cette voix.
C'était vraiment, je le considérais ça comme une petite farce, comme une petite chose, sans lendemain.
La voix d'Hergé que vous reconnaissez. Vous l'avez pas connu, Hergé?
Non.
Non, non. Mais en même temps, ce jour-là paraît le numéro 1 du journal Tintin, avec un éditeur, Raymond Leblanc, qui a fait un pari, je crois.
Eh bien, c'était donc la fin de la guerre, et les jeunes en particulier avaient besoin de rêver, d'évasion. Et Raymond Leblanc fait le pari de lancer un nouveau journal pour la jeunesse. Il y en avait d'autres qui existaient déjà en France ou même Spirou en Belgique. Et il se dit, mais si je lance un journal, il me faut un personnage emblématique. Et pour n'importe quel Belge de l'époque, le personnage emblématique, c'est Tintin. Et Raymond Leblanc était donc
un résistant,
voilà, merci. Et en tant que tel, il a permis à Hergé de se dépatouiller un petit peu des ennuis qu'il avait à la fin de la guerre, puisqu'il avait travaillé dans le journal Le Soir, qui était tenu par les Allemands, donc ça créait des polémiques. Et grâce à Raymond Leblanc, il a pu sortir de toutes ces polémiques, et donc il lui a dit oui, bien évidemment, pour donner le nom de Tintin à son nouveau journal, et c'était le début d'un énorme succès.
Voilà, il se trouve que quand la police venait arrêter Hergé pendant la guerre, il disait, mais je m'appelle pas Hergé, je m'appelle Georges Remy, qui était son vrai nom, et la police repartait bredouille à chaque fois, ça marchait très bien. Et c'est vrai que Tintin a été un événement, c'était le début de ce qu'on appelait l'école belge, la ligne claire.
Ah oui, c'était au début, Hergé ne pouvait pas faire remplir un journal tout seul, donc il a commencé par chercher autour de lui des amis pour alimenter les premières pages du journal. Alors, il y a eu le fameux Edgar Pierre Jacobs, qui a commencé Blake Mortimer, son nez dans le premier numéro du journal Tintin. Il y avait Corentin, bien entendu, aussi de Cuvelier. Et c'était ce petit noyau qui a démarré le journal. Et puis, très vite, face au succès, on a décidé d'augmenter le nombre de pages. Donc, il fallait plus de dessinateurs. Et sont arrivés les Jacques Martin, les Jean Graton, les Tibet, et toutes les générations qui ont suivi.
Et vous arrivez donc aux éditions du Lombard par une petite annonce très précise, mais qui vous attire tout de suite.
Une petite annonce donc parue dans la presse, et j'étais très étonné que pour un poste pareil, on s'adresse par voie de presse.
Et on cherchait un rédacteur en chef.
Cherchait un rédacteur en chef pour les journaux qui existaient encore aux éditions du Lombard. Il n'avait plus le droit sur le titre Tintin, qui s'appelait à l'époque Hello BD. Enfin, c'était toujours le même journal avec les mêmes auteurs. Et on demandait à un rédacteur en chef qui avait au moins 25 ans, donc ça collait. Et pour le reste, je n'avais zéro expérience, mais j'y suis allé au bluff et avec surtout beaucoup d'enthousiasme et une bonne connaissance de tout ce qu'avaient produit les éditions du Lombard. Et puis voilà, je vais passer les détails, mais j'ai été pris.
Et donc vous découvrez à ce moment-là un immeuble de légende, car l'immeuble de à côté de la gare du Midi de Bruxelles, l'immeuble de Tintin construit juste avant l'exposition universelle, était un événement.
Ah, c'est un immeuble que tous les enfants, les grands-enfants de Bruxelles connaissent, puisqu'il est surmonté par la tête de Tintin et Milou, qui tourne sur elle-même. Raymond Leblanc s'était inspiré de l'étoile Mercedes qu'il avait vue un jour à Francfort, je pense.
Oui, sur une autoroute, à la nuit.
Et il s'était dit, mais moi je veux la même chose pour mon journal à Bruxelles. Il avait donc fait monter cette effigie au-dessus de l'immeuble. Et moi, gamin, je me souviens, comme beaucoup d'autres enfants, quand on passait dans le quartier, je demandais à mon père, fais un détour, on veut voir la tête de Tintin, on veut voir la tête de Tintin.
Et ça tournait grâce à une mécanique mise au point par l'ingénieur qui avait justement organisé l'étoile Mercedes à Francfort.
C'est ça.
Alors, il se trouve donc que vous arrivez dans un immeuble de légende avec Hello BD. En fait, le journal Tintin s'était arrêté à cause d'Alain Baran, secrétaire d'Hergé, qui soi-disant correspondait avec Hergé par table tournante et avait dit « il faut arrêter le journal ». Il a repris un journal qui n'avait pas marché et Hello BD est arrivé. Et là, ça a été aussi 3 années de découverte pour vous d'une nouvelle BD, Yves Sente.
Ah oui, il y avait de nouveaux auteurs, les générations succèdent aux générations. Mais heureusement, il y avait toujours quelques anciens comme Tibet ou Rosinski, Herman, tous les qui étaient des piliers du journal depuis les années 60. Ils étaient toujours là Et ça permettait quand même à la maison de tourner un petit peu. Mais disons que à l'époque, le Lombard n'était plus aussi rayonnant qu'il l'avait été dans les années 60-70. Il y avait du travail de redynamisation et il fallait aller chercher de nouvelles générations d'auteurs.
Oui, parce qu'à l'époque, bon, les journaux étaient en baisse. Elle, l'OBD n'a pas survécu d'ailleurs au bout de quelques années. Mais les albums, au départ, c'était pas ce qu'on voulait. Les premiers albums, je crois, Le Secret de l'Espadon de Jacobs, s'est vendu à 10 000 exemplaires et principalement à la librairie en dessous du journal tenue par la première femme d'Edgar Pierre Jacobs.
Oui, les mauvaises langues racontent que Hergé n'aimait pas trop la concurrence et avait demandé à Raymond Leblanc de ne pas trop appuyer sur les albums parce que les albums de Tintin, pour lui, suffisaient en librairie. Maintenant, les autres auteurs avaient eux aussi envie de rayonner, d'avoir une vie en album qui rentre dans les bibliothèques, parce que les journaux, à l'époque, faut bien le dire, on les lisait avec passion, mais on se les passait entre frères et sœurs. Ça se déchirait, ça finissait souvent à la poubelle, donc il ne restait rien. Et les auteurs avaient envie quand même que leur œuvre perdure. Donc les albums sont nés quand même.
Oui, mais ce que les générations d'aujourd'hui ne savent pas, c'est que jadis, les auteurs de BD gagnaient leur vie chaque semaine avec une planche qu'ils apportaient au journal.
Ah, les journaux rapportaient énormément d'argent, non seulement par les ventes, mais parce qu'il y avait de la publicité dans les journaux de bande dessinée. Donc l'éditeur pouvait financer l'achat de la planche de BD chaque semaine. Et l'auteur vivait déjà très bien comme ça. Je me souviens que Thibet m'avait dit que quand il avait 18 ans, dans les années 50, il gagnait beaucoup mieux sa vie que son frère qui était ingénieur, ce qui le rendait un peu jaloux, le frère. Et il disait non, la bande dessinée était dans une période faste à cette époque-là, grâce aux journaux, et tout ce qui se vendait en plus en album derrière, c'était du bonus.
Voilà. En même temps, à l'époque, les planches n'avaient aucune valeur. Thibet m'a un jour raconté qu'il dédicaçait des planches dans les séances de signature, alors qu'aujourd'hui, elles se vendent quelquefois par des centaines de millions d'euros.
Ah, j'ai lu il y a 2-3 jours, je pense qu'une planche de Hergé vient d'être mise en vente, 480 000 euros aux enchères à Liège. Donc ça atteint des sommes qu'on n'imaginait évidemment pas du tout à l'époque.
Parce que quand vous manipuliez des planches que vous receviez, ça n'avait pas plus d'intérêt que ça à l'époque, Yves Sand.
Ouais, dans les années 90, les auteurs commençaient petit à petit à se rendre compte que de la valeur de leur travail. Donc on faisait quand même très attention à ne pas les perdre ou à ne pas les abîmer.
Alors effectivement, il y avait les nouveaux dessinateurs, les nouveaux auteurs. Et on repérait tout de suite celui qui avait le bon scénario ou le bon trait, Yves Sand.
C'est de l'instinct. Il faut avoir lu beaucoup, avoir beaucoup intégré les codes de la bande dessinée, tant sur le plan graphique que visuel. Quand on reçoit des nouveaux projets, je recevais, je sais pas, une dizaine de projets au moins par semaine, et on en lançait 2-3 nouveaux par an. Donc déjà à l'époque, la sélection était rude. Il fallait bien se baser sur certains critères. Et les premiers critères, pour moi, c'est bon, la lisibilité, tant du récit que du dessin, la crédibilité. Ça, c'était le maître mot d'Hergé. Il faut toujours qu'une histoire tiennent la route, qu'à aucun moment, même si on est dans la science-fiction, le lecteur puisse se dire, enfin, il raconte n'importe quoi, il se contredit par rapport à ce qu'il a dit avant. Donc, la crédibilité est un maître mot. Et puis, il y avait cette culture au Lombard qui remonte au début du journal Tintin. Raymond Leblanc et Hergé voulaient des récits qui étaient documentés. Parce que ce soit Alix pour l'Antiquité ou Michel Vaillant, Jean Graton pour l'automobile, tout ça était très documenté. Il fallait distraire, faire rêver les gamins, mais en même temps leur enseigner quelque chose par la bande, leur apprendre quelque chose. Et ça, je crois que tous les lecteurs qui sont nés avec ce type de travail ont gardé ça entre eux, en eux, ont essayé de le reproduire. En tout cas, même moi, au niveau de mon roman, enfin, on en parlera après, la part documentation était quelque chose d'essentiel pour moi.
Bien sûr. Et puis, il y a aussi la case de fin de planche pour que la semaine suivante, on puisse relire la suite.
Ah oui, puis au début, chaque auteur avait droit à une page dans le journal, donc il s'agissait que la dernière case de chaque page se termine sur un petit suspense, sur une envie, évidemment, de vivement la semaine prochaine, qu'on continue, de ne pas lasser, de ne pas décevoir. Donc ça demande un rythme d'écriture très particulier quand on écrit le scénario de l'histoire.
Voilà. Et en même temps, ben, l'obligation pour vous à l'époque au Lombard, Yves Sand, c'était Angoulême, le festival d'Angoulême. Aujourd'hui, il est souvent décrié parce qu'on dit un auteur qui vend n'est pas un auteur de BD. Ça, vous avez connu les débuts et les fêtes et surtout l'engouement des lecteurs pour la BD.
Ah ben, les festivals, et Angoulême en particulier, ont connu un essor grandissant depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, il y a
grâce à, c'est grâce à François Mitterrand qui un jour est venu inaugurer Angoulême et ça a été le déclenchement.
Ah, c'est possible que c'était un des grands déclenchements.
Et c'est vrai que c'est une fête permanente parce que finalement, un auteur de BD, il reste chez lui pendant des mois et des mois sans sortir. Angoulême, c'est la sortie de l'année.
Ah mais si vous demandez à un auteur pourquoi il sera en festival, 9 fois sur 10 ou 99, 99 fois sur 100, il va vous répondre, c'est pour aller voir les copains.
Voilà.
Alors évidemment, on est toujours content de rencontrer le public et de dédicacer, mais enfin, en soi, c'est parfois fastidieux, ça peut même faire mal à la main en fin de journée. Mais voir les copains le soir, c'est très important, parce que tout le reste de l'année, comme vous dites, on est souvent très seul quand on est... que ce soit scénariste ou que ce soit dessinateur.
Et vous avez connu cela, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 26 juin 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Saint.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400 € par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200 € option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000 €. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 Adata mai 2025. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous êtes étudiante, porteuse de projet ou déjà entrepreneur? Ne ratez pas les 10 ans du Be a Boss Woman Tour. Une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin. Et de participer au Be a Boss Awards. Be a Boss Sud, le 12 juin à la CCI Aix-Marseille Provence. Programme et inscription gratuites sur beaboss-womantour.com. Avec Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yves Sente, dont vous commencez à connaître le parcours, à la fois comme directeur éditorial du Lombard et puis vos jeunes années. Vous publiez l'expérience Pentagramme, un livre au seuil dans la collection Verso, un thriller, votre premier thriller, on va en parler. Mais si vous arrivez au thriller, c'est parce qu'il y a eu d'autres choses avant. Et si je cite la date du 26 juin 1999, c'est qu'elle est liée à un nom et une voix.
Au début de chaque histoire, il y a toujours la petite étincelle qui est l'idée.
Edgar Jacobs. Ce jour-là paraît la Machination Voronoff, un album que vous avez signé dans des conditions très particulières, car vous êtes à la fois directeur éditorial du Lombard et vous avez écrit un scénario de Black et Mortimer.
Oui, c'est un petit miracle qui m'est arrivé, qui vient du hasard. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc j'aimais bien la bande dessinée. Enfin, j'étais passionné de bande dessinée comme lecteur. J'avais commencé comme hobby une première bande dessinée avant d'entrer au Lombard, celle que je montrais à Tibet. Et ça me manquait. J'avais toujours envie de créer quelque part. Et le métier d'éditeur est passionnant, mais ça ne répondait pas à ce besoin spécifique. Et donc, le groupe Média Participation, enfin les éditions d'Argo, avaient racheté les éditions et les droits de refaire de nouveau Blake Mortimer en 96 et avaient relancé la série avec un album de Jean Van Am et Ted Benoît au dessin qui s'appelait L'affaire Francis Blake. L'étrange rendez-vous, c'est le suivant, vous avez raison. L'affaire Francis Blake. Superbe travail, tant sur le plan scénario que sur le plan dessin, vraiment. Et c'est un succès, un carton absolu. Je crois que d'Argo en vend 5 ou 600 000 exemplaires. Et donc, tout le monde se dit, ben, c'est formidable. Les gens redemandent, donc ils vont en faire un autre bientôt. Et puis, étonnamment, Ted Benoît, qui était bien parti, qui avait les personnages en main, se fait en fait de plus en plus lent. Est-ce que c'était la pression du succès? On ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'il met beaucoup, beaucoup de temps à faire le suivant et que les éditions d'Argo décident, je la fais très courte, de lancer une deuxième équipe. Et quand j'apprends ça, j'envoie un synopsis de manière anonyme à Didier Christman, qui est le directeur éditorial de d'Argo à l'époque, en charge de Blake Mortimer. Et en disant, j'ai reçu ça à Bruxelles, ce qui était logique, puisque Jacobs et Blake Mortimer étaient nés aux éditions du Lombard à l'époque. Et donc, j'envoie mon scénario, et quand je vais à Paris 2 semaines après, je vais voir Didier Christman, qui me dit, ah, mais c'est formidable, c'est absolument ce qu'on cherche, j'ai déjà fait lire à tout le monde. C'est qui l'a écrit? Et donc là, ben, j'avais plus le choix, donc je me dévoile, Et il me dit, ah bon, il était surpris évidemment, puis il me dit, mais c'est très bien, on ne cherchait pas un nom, on cherchait quelqu'un qui sache faire du Blake Mortimer.
Et c'est comme ça que s'est née la machination Voronov, qui est une histoire qui se passe en 1957, au moment de la guerre froide, et c'est vrai que Blake Mortimer, c'est une série mythique, et c'est une série qui se déroule toujours dans une époque bien précise.
Oui, disons que le cœur de l'œuvre se situe dans les années 40-50, et c'est là que l'éditeur a décidé de relancer la série en demandant aux repreneurs de garder, de conserver ce code des années 50-60. Pour Jacob, c'était différent. Jacob dessinait, lui, en temps réel. Pour lui, c'était une série contemporaine. D'ailleurs, son dernier album, le premier volume de les trois formules Sato. De Professeur Sato, on voit clairement dans les véhicules et les décors que ça se passe pour lui dans les années 70. Mais pour les nouveaux lecteurs et les nouveaux auteurs, on a décidé qu'on allait rester dans les années le cœur du mythe autour de la marque jaune, on va dire, dans les années 50.
Alors que la marque jaune, justement, ça fait partie de vos lectures d'enfance, Yves Sente.
Ah bien sûr, la marque jaune, c'est après, je pense, Tintin, c'est la bande dessinée qui m'a le plus marqué. Et sur différents plans, l'histoire était prenante, bien sûr, elle faisait un peu peur d'ailleurs. Mais je me souviens aussi que c'était la première bande dessinée que j'ai pas réussi à lire en une fois. Il y avait tellement de textes, c'était tellement dense que c'était comme un petit roman. Donc, enfant, j'ai dû m'y mettre à deux ou trois fois pour le terminer, parce qu'après je tombais de fatigue. Voilà. Mais et puis il y avait aussi cette particularité, c'est que les personnages étaient adultes, ils avaient l'âge de mon père, alors que les autres personnages BD, on se projetait facilement dedans parce que c'était en général des gamins. Tintin est un gamin, Spirou est un gamin. Blake Mortimer, c'est deux personnages un peu austères, très très sérieux. Ça ne rigole pas du tout dans cet album, dans ces albums. Et donc, c'est une ambiance tout à fait particulière qui m'a énormément plu, marqué.
Voilà. Il se trouve qu'à cette époque-là, les enfants dans les cours de récréation dessinaient des marques jaunes tellement ça avait de succès.
Il paraît. Dans les années 50, je n'étais pas encore là pour le vérifier, mais en tout cas, oui, j'ai entendu.
Alors, ça veut dire que vous entrez dans Blake Mortimer avec un principe que Jacobs appliquait en prenant du temps, c'est-à-dire beaucoup de documentation, Yves Sente.
Oui, pour moi, c'est très important. C'est vrai que Jacobs se documentait beaucoup et avait la réputation d'être un scénariste et un dessinateur maniaque à l'extrême, qui pouvait faire attendre son éditeur pendant des semaines pour avoir une nouvelle planche parce qu'il lui manquait tel ou tel élément de décor pour dessiner. Et moi, ça m'a toujours plu que ce soit dans la bande dessinée, dans le roman ou dans le cinéma, quand je suis face à une œuvre de fiction, j'attends qu'on me fasse rire, qu'on me crée des émotions, que j'ai peur, peu importe les émotions. J'ai envie d'y croire. Et pour y croire, il faut que tout ce qui entoure le récit ou l'action soit crédible. Et là, je pense qu'une bonne documentation est fondamentale pour emmener les gens justement vers la fiction. Si au début, ils se rendent compte, ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hop, au moment où vous dérapez pour aller vers le faux, le mensonge, la fiction, mais continuez à croire que c'est vrai. Il faut les préparer à ça.
Donc il faut à chaque fois une idée, je crois que vous en êtes au 9e ou 10e Blake Mortimer, il faut trouver l'idée et après il faut trouver une documentation, ce qui n'est pas toujours évident.
Non, parce que effectivement il y a des choses, surtout sur le plan visuel, qui ont disparu. Dans le double album La Vallée des Immortels, que j'ai écrit pour le dessinateur Peter Van Dongen, ça se passe dans les années 50 à Hong Kong. Et c'était l'éditeur, Yves Schlieff, qui m'avait suggéré Hong Kong. Très bonne idée, très beau cadre pour un nouveau Blake Mortimer. Mais il n'y existe plus rien sur le front de mer, des magnifiques bâtiments qui existaient à l'époque. Et donc, on a dû faire venir des livres de là-bas, parce qu'ici, même dans les bibliothèques, on n'en trouvait pas. Sur Internet, très très peu de choses. Et Peter Van Dongen, grâce à toute cette documentation, a pu reconstituer tout le front de mer dans l'album en dessin. Et c'est formidable parce qu'il y a quasiment plus personne qui peut avoir accès à ces images-là.
Alors, votre premier album, Yves Sente, La Machination Voronov, vous avez travaillé tout de suite avec André Julliard, dessinateur disparu voici quelques mois, qui avait été un élève de Christin et Mézières, les créateurs de Valérian. Et c'est vrai que là aussi, c'est une documentation des voyages à chaque fois pour préparer chaque album.
Ah ben c'est toute cette génération, enfin je ne suis pas les générations qui m'ont précédé encore plus ou autant en tout cas, qui effectivement aimait se documenter toujours et encore. Je veux dire, André Juillard, jusqu'à la fin, ce qu'il voulait dans Blake Mortimer, c'était découvrir de nouvelles régions. Pour le dernier album paru l'année passée, donc ça se passait en Cornouailles, c'était une suggestion d'André, qui m'envoie un petit dessin un jour de Blake et Mortimer, avec qui parle entre eux. Ils disent, oh, cher Francis, est-ce qu'on ne demanderait pas à Yves de nous emmener en Cornouailles et parler des légendes arthuriennes, et puis les décors seraient tellement beaux pour nous, etc. Donc c'était toujours comme ça, très très discret, sa manière de demander des thèmes, des sujets. Et puis moi ça me faisait rebondir. Donc quand j'ai écrit le scénario, après souvent on allait en Angleterre, on allait prendre des photos sur place, on allait se documenter sur place, que ce soit à Oxford, à Londres, à Liverpool, on allait dans plein d'endroits pour les différents albums. Mais il y a aussi la documentation internet, hein, on ne s'en prive pas non plus.
Alors il se trouve aussi que j'ai le sentiment qu'Edgar Jacobs est beaucoup plus connu aujourd'hui qu'il l'était de son vivant. Il avait un petit monde autour de lui, mais aujourd'hui il est mythique.
Alors là, pour moi, c'est un véritable mystère, effectivement. Jacobs, le mythe jacobsien est né quelque part entre sa disparition en 1987 et la relance des nouveaux albums avec l'affaire Francis Blake dont on parlait tout à l'heure. Il y a plus de 10 ans qui ont passé, et enfin presque 10 ans, et en 10 ans, c'est comme si Jacobs était, et Blake et Mortimer surtout, parce que les auteurs sont plus, les personnages sont plus connus que l'auteur, mais était devenu mythique. Il y avait eu un manque, s'était créé quelque part.
Il se trouve qu'en plus, Jacobs avait été chanteur d'opéra avant de devenir dessinateur. Il a même été box dans une revue de Miss Tinguette à Bruxelles en 1920.
Ah, je ne savais pas.
Voilà, c'est une chose particulière. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très discret, qui n'acceptait pas les interviews. Moi, un jour, j'ai réussi à l'interviewer parce qu'il était fan de Dorothée. Je lui ai envoyé une photo dédicacée de Dorothée et il m'a reçu au Bois des Pauvres ensuite, dans sa maison.
Vous avez eu beaucoup de chance.
J'ai un privilège. Alors, vous avez dans tout ça un parrain qui est Jean Van Hamme, qu'on a reçu dans Les Clés d'une Vie, l'auteur de plein de séries, à commencer par 13. Et c'est vrai qu'il a été un parrain, qu'il vous a beaucoup soutenu dans le monde de la BD.
Mais quand j'ai donc soumis mon premier scénario, La Machination Van Hamme, de Blake Mortimer, chez Dargo, donc je l'avais fait anonymement, et quand ils m'ont répondu avec enthousiasme que c'était bon, j'ai dit, oulala, attends, avant d'en parler, je veux aussi que Jean Van Hamme le lise sans savoir qui c'est. Parce que c'était Jean qui avait repris la série. J'étais toujours à l'époque son éditeur sur la série Torgal. Je voulais pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, ou je sais pas comment dire. Enfin, je voulais pas qu'il y ait de malaise entre nous. Donc, voilà. Donc, on a envoyé le scénario aussi à Jean Van Hamme de manière anonyme. Il savait que c'était venu par Bruxelles, donc il m'appelle, il me dit au téléphone, bon, j'ai lu La Machination Van 9. C'est très bien. Bon, maintenant, tu peux me dire qui l'a fait. Je me dévoile donc une nouvelle fois, puis un petit blanc, puis il me dit, bon, il est 17h30, je ne sais plus, tu fais quelque chose pour l'apéritif? Je dis, non, j'étais au téléphone, on m'a passé à la maison. Donc je quitte le Lombard et je vais chez lui, puisqu'il habite pas très loin de chez moi, à Uccle aussi, et nous avons pris l'apéritif, et en quelques phrases très très toujours très très sympa, il m'a pointé les 2-3 choses que je pouvais peut-être améliorer dans le scénario, que j'en regarde d'aigle pour ça, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Et puis il m'a dit, bonne chance, moi aussi j'ai commencé en faisant des reprises, une excellente école, parce que lui avait commencé en reprenant Corentin avec Cuvelier.
Exactement. Et vous avez continué à faire d'autres reprises, puisqu'ensuite il y a eu Torgal et 13, né aussi de Rosinski et de Jean Van Hamme. Et là aussi, vous avez continué dans le droit chemin, Yves Sant.
Mais là aussi, c'est la chance qui m'a suivi, je ne sais pas, le travail peut-être aussi. Donc un jour, Jean Van Hamme avait décidé, annoncé à ses éditeurs qu'il allait arrêter Torgal et 13. Et on s'est mis en quête de nouveaux scénaristes repreneurs. Puis Jean les a tous refusés, ou Rosinski. Puis comme éditeur, un jour, je dis, écoutez, c'est bien, mais nous, on a besoin d'un Torgal, hein, dans les chiffres. Chaque année, ça fait quand même partie des séries les plus importantes de la maison. Et puis un jour, peu après, Jean m'a appelé, on a été déjeuner, et puis il m'a dit, mais en fait, tu as déjà travaillé avec Grégor sur La Vengeance du comte Scarbeck. J'avais fait un one-shot avec Rosinski, on s'entendait très bien. Tu connais Torgal mieux que personne, tu l'édites depuis déjà 15 ans. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Oh, oups. Et puis, voilà, il fallait de toute façon qu'un album sorte pour dans le meilleur intérêt de tout le monde et des lecteurs qui attendaient. Donc j'ai dit oui, et puis je lui ai soumis mon scénario, bien sûr, il a adoubé, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai repris Torgal pendant tout un temps.
Et aujourd'hui, vous êtes scénariste de bande dessinée, avec une chose importante, le rythme des séries n'est plus celui des années 50-60, Yves Sant.
Le rythme des années 50-60 dépendait du rythme de la presse. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de presse, l'album sort quand il est prêt.
Mais le rythme de l'histoire aussi.
Ah, le rythme de l'histoire. C'est... Moi, je garde un rythme à l'ancienne, à savoir, j'essaie de faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans chaque planche et qu'à chaque page de droite, donc toutes les deux pages minimum, il se passe un petit suspense à la dernière case pour qu'on ait envie de tourner la page. C'est des trucs d'anciens, mais je crois que ça... Ça fonctionne toujours. C'est très important, le rythme.
Voilà, et le rythme, ben, il est déjà important pour vous, pour la BD, mais il n'y a pas que ça. Et on va évoquer votre premier roman qui est sorti le 4 avril 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Yves Saint.
Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.
Je vous félicite pour vos émissions. C'est toujours un plaisir. Je déguste votre émission.
Sud Radio, parlons vrai.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Béziers.
102.6.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Yves Saint. Donc, on commence à vous connaître à travers votre parcours d'éditeur au Lombard, de passionné de BD, de scénariste de Black et Mortimer. Et vous aviez un rêve de toujours, c'était écrire un roman. Et donc, paraît aujourd'hui au seuil chez Verso, l'expérience Pentagramme, qui est votre premier roman. Et là, vous passez directement de 44 ou 60 planches à 500 pages. C'est quand même un rythme très différent, mais en même temps, c'est un désir de toujours.
C'est un désir de toujours, effectivement. Le gamin, j'avais autant envie d'écrire des romans que des bandes dessinées. Les hasards de la vie dont on a parlé ont fait que j'ai plongé dans la bande dessinée. Mais c'est l'écriture qui était mon premier moteur. En bande dessinée, il faut bien comprendre que quand un scénariste remet son travail, il y a les 8/10 de ses lignes qui disparaissent puisqu'elles se transforment en dessin. Parfois, on voit une grande case au début d'un album avec une scène de ville, des voitures. Il faut tout expliquer au dessinateur, à savoir telle voiture arrive de là, telle autre de là, il y a un avion là. C'est important parce que 3 pages plus loin, il y aura ceci, il y aura cela. Donc, on donne tous les détails et parfois, c'est une page d'écriture pour décrire une case. Et en haut de cette case, il est écrit « ce matin-là ». Alors, les gens vous disent « oh ben c'est facile d'être scénariste, vous écrivez ce matin-là et tout le boulot est pour le dessinateur ». Oui, sauf que moi, j'ai dû écrire tout ce que le dessinateur a mis en scène. Donc, j'écris beaucoup depuis longtemps, mais cette écriture ne se voit pas. Et là, j'avais envie, plutôt que de faire transformer ces visions en dessin, eh bien, de les transformer en phrases qui ne soient pas techniques ou simplement destinées à expliquer au dessinateur ce qu'il doit faire, mais qu'elles se suffisent à elles-mêmes pour que le lecteur du roman imagine les scènes et les voit comme si elles étaient dessinées ou filmées devant lui.
Alors, il faut d'abord un sujet, et vous étiez passionné par un sujet, ce sont les puces qu'on met dans le cerveau. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse depuis toujours, Yves Saint.
Depuis très longtemps, et alors ça ne vous étonnera pas, c'est la première fois que le sujet m'a marqué, c'est dans La Marque Jaune. L'encéphalotoscope, invention du professeur Septimus, qui permettait à ce méchant dans la série Blake Mortimer de téléguider Ulrich à distance. Et à l'époque, c'était de la... fantasme pur, la science-fiction pure, alors qu'aujourd'hui, la technologie a tellement avancé, c'est un petit peu comme avec Jules Verne, hein, beaucoup de choses sont devenues vraies. Et le thème des puces dans le cerveau est un thème qui me parle à titre personnel, parce qu'il y a quelques années, il n'est plus aujourd'hui, mais mon père a souffert de la maladie de Parkinson, et c'était les balbutiements. Aujourd'hui, on travaille beaucoup Parkinson avec des puces implantées dans le cerveau. On travaille sur Alzheimer grâce à ça. Donc la science est là, progresse. Et le rôle du scénariste, c'est toujours de dire, les côtés positifs, on les connaît. Le stade d'avancée technologique, on le connaît. Oui, mais et si? Et si demain? Et ça, c'est le rôle du scénariste ou du romancier. C'est d'avoir ce réflexe qu'ont tous les gamins quand ils jouent entre eux dans la cour de récréation. Et si on disait que moi je suis le cow-boy et toi l'indien, eh bien c'est un petit peu faire la même chose à l'âge adulte. Donc je me documente beaucoup sur le sujet, c'est un sujet qui m'intéresse sur plusieurs plans. Et puis à partir de la documentation, je me dis mais comment faire une histoire qui pourrait amener les gens à découvrir le sujet tout en ayant un récit captivant d'aventure, de un thriller, quoi.
Donc, l'expérience Pentagram, c'est au départ une expérience basée sur ces puces.
C'est une expérience qui a été réalisée au sein de la DARPA. La DARPA est une agence du Pentagone qui existe réellement, qui a un budget de 4 milliards de dollars par an, rendez-vous compte, juste pour que les scientifiques fassent des expériences les plus folles, les plus secrètes, dans le but d'aider leurs soldats à guérir de certains traumas post-guerre, à créer de la robotique pour les aider sur le terrain. Ces scientifiques font des recherches tous azimuts. Donc cette DARPA, je trouve, c'est un vivier pour des récits de thriller-fiction assez extraordinaire. Et il y avait beaucoup de romans déjà avec des agents de la CIA, des agents du FBI, des agents de la NSA ou de la DGSE en France, etc. Et la DARPA, à ma connaissance, personne n'en avait encore parlé, alors que c'est un endroit complètement fou où je me suis dit, pourquoi pas trouver une héroïne qui soit chef de la sécurité de cette fameuse DARPA. Et quand une expérience dérape, comme c'est dit dans le roman, ben c'est à elle qu'on fait appel.
Voilà, exactement. En fait, elle est là quand le Pentagone ne parvient pas à résoudre un problème. Elle arrive. D'ailleurs, une femme dans un genre de service, c'est assez rare aussi. En général, c'était réservé aux hommes, Yves Sente.
Ah ben l'armée, et a fortiori l'armée américaine, a très longtemps été une armée machiste. Et c'est clair qu'aujourd'hui, toujours, on a encore vu des sujets, même en France ou en Belgique récemment, on se rend bien compte qu'à l'armée, il y a encore des codes particulier, on va dire, et souvent très machiste, mais toutes les armées se sont ouvertes bien naturellement aux femmes. Il y a des femmes aujourd'hui pilotes de chasse, qui est le job le plus compliqué, le plus dur sans doute dans toutes les armées du monde, et elles ont accès à tous les postes. Donc je trouve ça, moi qui ai deux filles, je trouve ça très bien, et je veux toujours mettre en avant le fait que les filles aujourd'hui peuvent faire exactement la même chose que les garçons, bien entendu.
Alors il se trouve que le point de départ de votre roman, qui est un thriller, Yves Sente, c'est un journal du Chicago Herald Tribune, qui est un des 10 grands journaux de New York encore aujourd'hui, qui existe depuis 1847, vient à Bruxelles, tiens, quel hasard, et va se retrouver dans des situations étranges avec d'autres Américains qui eux aussi sont à Bruxelles.
Voilà, il s'agit de 5 Américains qui se sont jamais vus de leur vie, qui vivent dans des endroits très différents aux États-Unis et qui un beau jour se sentent appelés, il n'y a pas d'autre terme, vers une destination qui les mène, tous les 5, qui les amène d'abord à quitter leur boulot, leur vie de famille, tout, pouf, du jour au lendemain, à partir sans prévenir personne. Et ils se retrouvent, sans trop savoir eux-mêmes pourquoi, à Waterloo, qui est dans la banlieue sud de Bruxelles. C'est une petite ville on connaît évidemment pour la célèbre bataille, mais qui est en Belgique est aujourd'hui surtout connue pour être un fief d'expatriés américains, parce qu'elle est idéalement située entre l'OTAN qui est au nord de Bruxelles et le SHAPE, le gouvernement stratégique de l'OTAN qui est au sud. Et puis il y a aussi beaucoup de lobbyistes qui vont travailler auprès de communautés européennes. Donc il y a énormément d'Américains, ils se retrouvent là, ils habitent là. Donc nos 5 personnages se retrouvent là comme beaucoup d'autres. Donc ils sont quasiment inaperçus. C'est pas inhabituel de voir des Américains qui viennent louer des maisons. Et donc comme tout bon Américain toujours, ils organisent des petits barbecues entre eux. Ils font connaissance. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas du tout. C'est que ils sont 2, 3, 4... 5, à partager la même date de naissance, le même passé, et que d'un point de vue, ce n'est pas possible que ce soit du hasard. Statistiquement, c'est impossible. Si vous avez rencontré dans votre vie une personne qui a exactement le même âge que vous, qui est née le même jour, c'est déjà beaucoup. 5 dans le même clos, c'est pas possible. Il y a quelque chose, mais ils ne savent pas quoi, ils se sont jamais vus avant. Et c'est là que l'histoire commence. En même temps, Waya Wings, donc la chef de la sécurité de la DARPA, qui elle est toujours à Washington, comprend ce qui s'est passé et va se dépêcher de rejoindre nos 5 personnages pour essayer de sauver une situation qui risque de se révéler très explosive.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une évasion, un problème au départ.
Et voilà, c'est une expérience qui a eu lieu 15 ans plus tôt et qui a gentiment dérapé. À l'époque, elle a été considérée comme un échec. Mais il se trouve que l'échec n'était pas tout à fait vrai, puisque 15 ans après, l'expérience redémarre d'elle-même.
Et c'est une course contre la montre qui commence dans un livre, car c'est une course permanente pour essayer que tout s'arrange, ce qui n'est pas évident.
C'est le principe du thriller, il faut une course contre la montre, il faut un suspense qui soit motivé par une urgence. Et donc, il y a une question de vie ou de mort. Je vais pas tout dévoiler ici.
Non, mais
il faut effectivement que l'agent de la DARPA parvienne à solutionner la chose avant que les cinq personnages ne se remettent en route pour la mission pour laquelle ils avaient été programmés 15 ans plus tôt.
Et en même temps, c'est un sujet qui n'existe pas, mais qui pourrait exister.
J'aurais tendance à dire qu'il va exister. Parce que c'est clair et net que on a déjà tous lu aussi sur Neuralink, la société d'Elon Musk actuellement, qui travaille sur ces puces neuronales et qui viennent justement à l'origine des recherches de la DARPA. Alors, tant que c'est dans le cadre d'un gouvernement censé, d'une agence de l'armée, je peux me dire qu'il y a encore des garde-fous qui peuvent être mis en place. Le jour où les puces neuronales rentreront dans le privé et que on les couplera d'une manière ou d'une autre avec l'intelligence artificielle, vous savez, moi je trouve aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'espace de liberté. Si on regarde autour de nous, vous payez beaucoup de choses avec votre carte de banque, on sait ce que vous mangez, on sait où vous prenez de l'essence, on sait ce que, on peut à peu près savoir tout ce que vous faites, en plus les réseaux sociaux, Internet. Si on veut vous espionner, on connaît à peu près toute votre vie. Le seul espace qui reste, c'est l'intérieur de votre tête. Ça, vous pouvez penser ce que vous voulez, personne ne peut deviner ce que vous pensez. C'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, je crois qu'autant que tous autant que nous sommes, nous avons des secrets que même nos amis, nos plus proches ne connaissent pas. On a tous notre jardin intérieur. Eh bien, ce jardin intérieur, avec les puces neuronales, il va être mis en danger.
Oui, et c'est la première fois qu'on traite ce sujet. Il n'a jamais été traité dans un thriller. Et le thriller est un genre qui vous passionne depuis toujours. Je crois qu'il y a un des maîtres qui a écrit Jurassic Park, Michael Crichton, qui est un de vos maîtres aussi.
Ah, pour moi, Michael Crichton, c'est le Jules Verne des années 90-2000. J'ai quasiment tout lu de lui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de récits qu'il a écrit, comme le roman Jurassic Park, très très bien détaillé pour l'époque, très bien documenté sur la manipulation génétique. Et on se rend compte, presque 30 ans après, qu'on est en passe d'arriver à recréer des animaux disparus, en partie, de manière génétique. Et un jour, on arrivera à le faire. Moi, je suis persuadé depuis toujours, je sais pas pourquoi, que tout ce que l'homme imagine dans une fiction, s'il parvient à l'imaginer, un jour, il parviendra à le faire.
Alors, ça veut dire des mois de travail d'écriture pour arriver à un thriller qu'on ne lâche pas à chaque page, qui est le cas, Yves Sand.
Ah, ça, c'est pas à moi de le dire. Comme tout écrivain, je serai le seul à ne jamais pouvoir lire mon roman. Oui. Donc, c'est à vous de me dire si on ne lâche pas.
Mais c'est beaucoup de travail.
C'est énormément de travail. Pour moi, ça a pris à peu près 12-13 mois. J'avais de la chance. Pour une fois, je bénissais le ciel que mes dessinateurs étaient en retard. Donc, moi, j'avais de l'avance dans mon travail. Et j'avais du temps devant moi. Donc, soit je faisais une ou deux bandes dessinées en plus, soit je me dis, bon, Yves, là, tu peux plus reculer. Tu as le temps matériel de le faire. Si tu ne le fais pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Donc, j'ai tout mis de côté. J'ai dit, voilà, la BD me retrouvera dans 12-13 mois. Maintenant, je fais ce roman. Rien d'autre.
Et il y a aussi d'autres personnages. Il y a une femme qui se retrouve pour un reportage dans un centre du Maryland. Là aussi, il se passe un événement important, car ça fait aussi partie des secrets d'État.
Ah, mais on est dans un univers qu'on perçoit pas tous les jours. On connaît scientifiquement ce qu'il y a autour de nous, mais il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte dans notre quotidien. Le rôle du soleil sur la vie sur Terre est fondamental. Alors, on connaît le rôle du soleil qui chauffe et qui crée les photosynthèses, etc., etc. Mais par contre, il y a des explosions solaires de manière régulière qui provoquent des bombardements de particules sur Terre qui perturbent un certain nombre de choses. Et qui peuvent se révéler véritablement dangereuses. Et c'est exploité dans le roman aussi, à un stade du récit, oui.
Le thriller est un genre en plein développement. On dit que le premier thriller, ça a été les 30 Earth March, le roman, bien avant de devenir Hitchcock. Mais vous avez vraiment écrit, Yves Sand, un thriller à l'américaine qui pourrait devenir un film?
Ça, on le verra. On verra bien, je l'espère. En tout cas, je l'ai écrit de manière, et ça, c'est sans doute une déformation professionnelle qui vient de la BD, mais de manière très visuelle. Quand j'écris un scénario, je dois voir des choses pour m'assurer qu'un dessinateur puisse les mettre en scène. Je pense que quand j'ai écrit ce roman, c'était pareil. Au fur et à mesure que j'écrivais, comme tous les romanciers, je crois, on doit s'imaginer la scène, mais moi, j'attache une importance particulière au fait de pouvoir voir et me dire ça ne va pas être répétitif, ça va être spectaculaire, là ça bouge, etc. Il n'y a pas de répétition, parce qu'en BD, on est obligé de à chaque planche de montrer quelque chose d'autre. Donc j'essayais de le faire et j'espère que ça fonctionne.
Oui, c'est ce qu'on appelle les romans de l'été qu'on ne lâche pas parce qu'on ne peut pas le lâcher jusqu'à la dernière page, car vous avez prévu, comme dans la BD, un suspense jusqu'à la dernière page.
Ah ben, j'espère. Effectivement, c'est le genre de roman, je le conseille plutôt pour l'été au bord de la plage ou ailleurs, que de le lire de chapitre par chapitre le soir, parce que c'est quand même assez complexe. Il y a des personnages. Une fois qu'on est dedans, on est bien parti, mais il faut pas trop s'arrêter en route parce que sinon on va finir par perdre pied. Il faut un thriller quand on l'attaque, c'est pour ne pas le lâcher en général.
Et vous allez maintenant revenir à la BD ou continuer dans le roman ?
Oh mais je compte bien alterner. Il y a encore un Blake Mortimer qui va arriver à la fin de cette année-ci, mais dès cet été, je me remets à la suite des enquêtes de Waya Wings, ça c'est certain.
C'est certain. En tout cas, ça s'appelle l'expérience Pentagramme. C'est donc au seuil dans la collection Verso, je crois.
Oui.
Et c'est vraiment un roman plein de chaleur à lire au soleil cet été. Merci Yves Sand de l'avoir écrit et continuez à nous faire rêver avec tant de BD et de romans.
Merci.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Savez-vous qu'en France, 16 millions de personnes ont déjà pris des médicaments psychotropes ? Prescrits de plus en plus tôt, ces médicaments ont pour but de mieux gérer les difficultés de la vie courante. Mais quels en sont les effets ? Le documentaire Choc, la normalité sous ordonnance, explore ce sujet à travers différents témoignages d'experts et de patients. Un film essentiel pour avoir des informations indispensables et vous faire votre propre opinion sur ces médicaments qui ne sont pas sans risque. La normalité sous ordonnance, en accès libre sur YouTube et Odyssée.
Sud Radio Perpignan.
103.2.
Sud Radio, à suivre sur Sud Radio. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Le bonheur fait ma joie. Le bonheur fait ma joie. Si vous sifflez dans la rue, vous passez pour un hurlu berlu. Les gens vous regardent à travers en pensant ce gars-là, il est pas clair. Pourtant ce qui nous illumine nous donne bien meilleure mine. C'est tout bête, c'est de mettre un peu de douceur dans nos âmes, des sourires sur nos larmes, lâcher sa tête. Le bonheur fait ma joie. Vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait ma joie. Et si on a que sa gêne, pas de problème, chacun ses goûts. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur fait ma joie. Le bonheur fait ma joie. Les frissons sur la peau, ça vient pas du cerveau, mais de ce muscle si tendre. C'est tu es un peu plus bas qui vous tire vers le haut quand il bat. Le bonheur fait ma joie. Vous et moi, qu'est-ce qu'on veut? Être heureux, un point c'est tout. Le bonheur fait ma joie. Et si en acceptant que ça vous chante, venez avec nous.